Voilà, le sujet de cette dernière méditation a pour titre « La bienheureuse espérance ». Pour beaucoup d'entre vous, évidemment, nous pensons à l'admirable texte de Charles Péguy. Je pense que beaucoup connaissent un petit peu Charles Péguy. Alors, je commence par quelques extraits qui ne sont pas forcément les plus connus. Quelques extraits du porche de la deuxième vertu. Porche du mystère de la deuxième vertu. La foi va de soi. La foi marche toute seule. Pour croire, il n'y a qu'à se laisser aller. La charité va malheureusement de soi. Pour ne pas aimer son prochain, il faudrait vraiment se violenter, se raidir. La charité, c'est le premier mouvement du cœur. Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. C'est d'espérer qui est difficile. Et le facile et la pente, c'est de désespérer. Et c'est la grande tentation. Une religieuse a posé cette simple question dans un de son livre intitulé « Osons l'espérance ». La question est la suivante. Qui d'entre nous n'a pas été un jour ou l'autre interpellé par l'espérance d'une personne gravement malade et pourtant sereine et pleine de vie intérieure. Ça va, vous comprenez la question? Bon, ben c'est que vous ne faites pas encore la sieste tout de suite. C'est donc que l'espérance est d'un autre ordre, que celui de l'état psychologique d'une personne en pleine santé, en pleine possession de ses moyens, et qui, de plus, a une psychologie positive. C'est donc que l'espérance n'est pas liée au tempérament et aux conditions. Alors, c'est vrai que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent plus agréable de vivre à côté d'une personne optimiste qu'une personne pessimiste. Et pourtant, ni l'optimisme ni le pessimisme ne disent quoi que ce soit de l'espérance. Voilà. Et même si je voulais être un petit peu audacieux, mais c'est le pape qui l'est, il a eu cette expression un jour dans une catéchèse du 7 décembre 2016. L'optimisme déçoit. L'optimisme déçoit. L'espérance, non. Belle formule, hein ? Il s'agit donc pour nous d'entrer dans une espérance qui n'est pas simplement relative aux conditions ou fonctions de notre tempérament. Il s'agit d'entrer dans l'espérance fondamentale. Ou plutôt, je préfère cette expression, laisser activement l'espérance faire son travail en nous. Car l'espérance est un don de Dieu. Je ne l'obtiens pas à coup d'effort. Même si, pour faire fructifier ce don, il y faut aussi le don de force ou de courage. L'espérance n'est pas donc le résultat de notre effort, et pourtant c'est un don qui nous est offert pour qu'il fructifie, comme tous les dons de Dieu. Dieu ne fait jamais du clé en main. Ce serait indigne. Et le don du Saint-Esprit, qui est l'objet de la promesse même, c'est de créer en nous une capacité à être comme Dieu. Mais en aucun cas ne nous fait Dieu. Vous voyez ? C'est indigne, ce serait indigne de Dieu que de nous donner du tout fait. C'est Leibniz qui a eu cette formule. Bon, alors elle vaut ce qu'elle vaut, c'est un philosophe, mais Dieu est un ouvrier d'ouvriers. Il n'est pas un ouvrier d'œuvre. Et tous ceux qui sont en responsabilité, d'ailleurs, savent bien que le service de l'autorité, c'est surtout d'aider la croissance des personnes, de faire en sorte que chacun, non seulement ait sa place, mais puisse grandir les uns avec les autres dans une œuvre commune. Voilà. Il s'agit pour nous donc de coopérer avec le don de l'espérance divine. Ce don ne décevra jamais. Or, il y a des espoirs qui sont déçus et des optimistes qui finissent par nous casser les oreilles. Voilà. Oh, ça va pas. Tu as un problème. Oh, mais ça ira mieux demain. Tu parles, tiens. T'es pas à ma place. Vous voyez ? Il y a quelquefois des formules optimistes qui sont... Mais qui sont... Il vaudrait mieux qu'ils ne les aient pas prononcées, ces gens-là. Voilà. Je préfère à certains endroits le pessimiste. Vous voyez ? Oh ben, ça m'était arrivé une fois, mais je vais vous faire rire parce que ce n'est pas très très grave, mais j'avais une vieille voiture jadis, quand j'étais aumônier de lycée à Marseille, enfin à La Ciotat plus exactement. J'entrais de Marseille tard le soir, un jour, enfin une nuit plutôt, et ma voiture avait déjà plus de 200 000 km, c'était une 205, une vieille 205. Et, non pardon, c'était deux jours, excusez-moi, décidément. Et je démarre pour aller à une réunion à Marseille plutôt, et elle se met à brûler. Si ça vous est déjà arrivé, il faut sortir très vite. Ça va assez vite, voilà. Brusquement, j'ai vu des flammes qui sortaient. Je sortais du parking, je pense. Et donc, je suis sorti, j'ai eu le temps de vider ce que j'avais dans le coffre. Et puis, j'ai regardé ma voiture brûler. Les premiers qui sont arrivés, c'est les journalistes. Oh, qui êtes-vous ? Et puis, quelques passants paroissiens. Et puis enfin les pompiers. Les pompiers, ils ont tout éteint. De toute façon, c'était déjà fini. Puis ils ont fini de bousiller la voiture avec le flotte, quoi. Voilà. Enfin, c'était un moment un peu pénible. Et il y a quelqu'un, je me souviendrai toujours, qui me dit « Ah, Père Benoît, mais c'est vous. Mais comment ça va ? Comment ça va ?» Et écoutez, ça pourrait aller mieux. C'est ma voiture qui est en train de cramer. Elle fait « Oh, et à part ça, comment ça va ?» Voilà. Alors, quand c'est une voiture qui brûle, ça va. Quand vous êtes en train de perdre un être cher, que vous êtes un cancer avancé, à part ça, comment ça va ? On sent qu'il vaut mieux fermer sa gueule, quoi. Ça va ? Bon, bah oui. Il y a certaines formules. Vous savez, ça va mal, mais il y a quand même ça, vous voyez. Bon, il y a beaucoup de guerres dans le monde, mais il y a encore un pays qui n'est pas en guerre, quoi. Ben, c'est le nôtre. Ben oui, tant mieux, d'accord pour nous, mais c'est quand même un petit peu léger. Nous sentons bien que cette façon de dire certaines choses positives, il faut les dire bien sûr, peut être dénuée de toute espérance. Voilà. Et surtout être dénuée de la moindre compassion. Voilà. L'optimiste peut devenir un fieffet égoïste. Voilà. Ça c'est clair, pas besoin de faire un dessin. Bon. Donc l'espérance n'est pas une qualité naturelle, c'est un don de Dieu pour tous. Voilà. Un don de Dieu. Ce don ne nous décevra jamais. Il demeure vivant pour nous jusqu'à la consommation des siècles, consommation qui verra la communion à la gloire de Dieu sans plus avoir besoin à ce moment-là de l'espérance. Le pape François a écrit une lettre au début de cette année jubilaire qui s'intitule « Pèlerin d'espérance ». Peut-être vous l'avez lu, c'est une belle lettre toute à la manière du pape François. Il s'appuie sur le chapitre 5 de la lettre aux Romains. Romains chapitre 5, versets 1 à 11. Lisons ce passage. « Ayant donc reçu notre justification de la foi, ayant reçu que nous sommes des êtres libres, non pas par nous-mêmes, à cause de nos mérites, mais par le don de Dieu, par la foi, nous sommes alors en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes solidement établis et nous nous glorifions dans l'espérance, espérance de la gloire de Dieu. Nous espérons ni plus ni moins que la vie de Dieu. Nous espérons Dieu finalement. Que dis-je ? C'est saint Paul qui continue. Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. C'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors qu'au temps fixé que le Christ est mort pour les impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus maintenant, justifiés dans son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ? Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui dès à présent nous avons obtenu la réconciliation. C'est un passage très dense, évidemment, mais le pape a donc extrait de ce passage l'expression « l'espérance ne déçoit pas ». Paul continue plus loin au chapitre 8, toujours à propos de l'espérance. Chapitre 8, la même lettre aux Romains, versets 18 à 25. Puisque Paul, au chapitre 5, a osé dire nous nous glorifions, nous, y compris dans les tribulations, ce que ne fera jamais l'optimiste. Voilà. Nous glorifions dans les tribulations parce que la tribulation produit la persévérance, la constance, etc. J'estime en effet, dit Paul toujours, que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Si la création fut assujettie à la vanité, donc elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi la création libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes nous possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Car notre salut est objet d'espérance. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore ? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. Que nous dit la foi de l'Église ? Bien sûr, appuyée sur l'Écriture sainte, et sur toute la tradition de l'Église. Que nous dit-elle ? Alors, vous êtes encore... Bon, je vois que personne... Tout le monde ne dort pas, en tout cas. Bon, pardon, c'est un... On va faire un tout petit peu de lecture. Oui, bonjour, vous pouvez vous asseoir. On va arriver à un moment délicat. C'est la citation du catéchisme de l'Église catholique. Il y en a que ça les ferait fuir, mais pas moi. J'espère pas vous, parce qu'il y a beaucoup à recevoir dans ce livre. C'est au numéro 1817. Pour ceux qui prennent des notes, CEC 1817. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non pas sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Répétez après moi. Enfin, c'est dense, il y a beaucoup de choses, mais c'est super. La vertu, c'est un pli de l'âme. C'est un pli qui nous donne l'habitude du bien. C'est ce qui permet que le bien devienne connaturel, que notre volonté, notre intelligence, notre mémoire collaborent pour que le bien ne soit plus quelque chose de pénible. C'est ça, la vertu. Bon. Mais on y pense souvent au plan moral. Voilà. Sauf que l'espérance n'est pas une vertu morale, heureusement. Une vertu théologale, avec la charité et l'amour. Ouais. Une vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur. Voilà. C'est ce pli que Dieu met dans le cœur humain, cette bonne orientation du cœur humain qu'il met en nous pour nous faire désirer pas simplement un bon salaire, pas simplement la santé, même si c'est très bien tout ça, pas simplement la vie de nos enfants. Il y avait une fois une dame qui m'avait dit, je raconte mes histoires marseillaises, ça, le problème c'est que ça va durer, c'est ça le problème. Tant pis, comme une fois il y a eu une préparation de mariage, de baptême. Je m'étais risqué, ce qu'il ne faut jamais faire d'ailleurs, c'est citer Saint-Augustin dans une préparation de baptême. Il ne faut pas faire ça, parce que j'avais dit, vous savez, un jour, Saint-Augustin, ou non, la mère de Saint-Augustin, Sainte-Monique, avait dit, je préférerais que mon fils meure physiquement, plutôt qu'il tombe en état de péché mortel. Tout de suite, oh ben moi, pas du tout, qu'elle m'a dit à la mère, oh ben moi, non, mon père, non, moi, je ne préférerais pas, voilà, etc. Bon, il ne faut pas citer ce genre de choses dans les préparations de baptême, parce que en même temps, il faut faire très attention que l'espérance chrétienne n'est pas contradictoire avec l'espoir humain, bien sûr. N'allons surtout pas opposer. Quand je commence à dire que l'espérance est une vertu théologale, ça ne veut pas dire du tout qu'elle est en contradiction avec l'espoir. François insiste beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, dans le vocabulaire courant, on utilise souvent un mot pour l'autre. J'espère, j'ai l'espoir de... Et parfois dans l'Écriture sainte aussi. Donc n'allons pas trop couper les cheveux en quatre là-dessus. Il ne faut pas jamais opposer les nobles espoirs humains avec l'espérance, même si l'espérance est d'un autre ordre. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc c'est le pli que Dieu met dans l'âme humaine pour orienter sa joie vers un bonheur qui n'est rien de moins que le bonheur de son Dieu lui-même. Le bonheur du royaume du ciel et la vie divine. Voilà. Ça va très loin. Et du coup, pour que ce pli ne soit pas oublié, il met en nous une confiance, la foi, dans la promesse du Christ. Je vous enverrai une force venant d'en haut qui fera de vous les témoins de cette joie. Voilà. Et en prenant appui, insistance, non pas sur nous-mêmes, nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Voilà. Vous voyez que pour ceux qui pensent que le catéchisme est un peu rébarbatif, bah évidemment, si on le lit comme ça en surface, mais de temps en temps, il faut aller... Je pense que nous pouvons aller le chercher quand nous avons une question. Tiens, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il dit là-dessus. Pas simplement pour me faire une opinion, mais pour élever ma propre pensée. Je n'ai pas à juger le catéchisme, c'est lui qui élève ma foi. C'est lui qui agrandit ma foi et ma pensée de l'Église et ma pensée de la vie morale et ma pensée de la prière, etc. C'est pas moi qui dis le catéchisme, d'accord ou pas d'accord. Ben, ça, c'est ridicule, quoi. Avec ça, d'ailleurs, on ne peut pas ne pas être d'accord ou pas d'accord. C'est beaucoup plus grand que tout ce que j'aurais pu trouver moi-même. Donc il faut commencer à recevoir ça. Voilà. Tout ça est très intéressant, c'est enregistré. Donc du coup, je ne sais pas ce que ça donnera, parce que c'est du spontané un peu. Mais tant pis, je vois que le Père n'est toujours pas endormi, donc ça me réjouit. Voilà. Et le catéchisme enseigne donc que la vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur que Dieu a placé dans le cœur de tout homme. Un autre endroit du catéchisme. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Donc je l'ai dit, les vertus théologales ont Dieu comme origine. Elles branchent, si vous voulez, sur Dieu. Elles conduisent à lui. Quand nous espérons, Dieu est là en nous et nous lui permettons d'agir. Quelles sont, et là je vais vous demander de vous réveiller un peu, quelles sont les expressions courantes qui se rapprochent le plus du mot espérance? Allez-y. Espoir, oui, oui. Attente, oui, oui. Comment? Foi. Comment? Charité, oui, oui, enfin les mots, c'est... Oui. Confiance. Voilà, vous avez dit des mots. Tout à l'heure, comment ? La vie, oui, c'est vrai, peut-être. Oui. Enfin, voilà, tout de suite, vous avez pointé l'espoir et aussi quelqu'un dit l'attente, c'est ça ? C'est deux mots, c'est ça, on l'a dit ? Aussi le courage. Et par exemple, j'ai pensé ce matin à quelque chose de très simple, c'est l'exemple des détenus du camp de Dachau, près de Munich. Voilà, donc ils arrivent dans ce camp et puis il y a marqué le travail rend libre, je ne sais pas quoi, enfin sur le, bon, je ne connais pas l'allemand, enfin quelque chose comme ça. Et ils voient que c'est un camp qui est loin d'être un village de vacances. Et ils se demandent ce qui va se passer. Un groupe de Belges, comme quoi on peut sortir quelque chose de bon, même de la Belgique, a eu l'idée géniale d'appeler la grande allée du camp, donc avec la grille, avec le travail rang libre, tout ça, tu parles, oui, quel travail. Et au bout, il y avait les fours crématoires. À Dachau, ce n'était pas un camp d'extermination. Enfin, on cramait les corps de ceux qui avaient été tabassés ou qui étaient épuisés. Enfin, ce n'était pas tout à fait l'extermination, mais enfin, on n'était pas très loin quand même. Bon, voilà. Et en pensant que la libération viendrait par cette porte qui paraissait une porte de la mort, savez-vous comment ils avaient appelé l'allée centrale du camp qui devait s'appeler Strachmassin numéro 1? Vous savez comment? Comment? Rue de la Liberté. Ça vient de là. Voilà. Rue de la Liberté. Il faut le faire. Ça, c'est le courage de l'espérance. Voilà. Et voilà. Le pape François souligne que patience et persévérance sont devenues aujourd'hui plus difficiles à acquérir dans le monde actuel. Pourquoi? Parce que peut-être plus qu'avant, les moyens technologiques permettent, enfin en tout cas de rêver, d'avoir tout de suite. Nous savons très bien que ce n'est pas vrai, mais quand même, nous sommes habitués à ce que les choses fonctionnent et que nous puissions obtenir très vite ce que nous voulons. Par exemple, pour les données scientifiques, les données littéraires, il n'y a pas besoin d'aller faire la queue à la Bibliothèque nationale, d'aller demander un ouvrage, ça prend une demi-journée, et puis d'aller avec une loupe déchiffrer le parchemin, j'exagère évidemment, bon, tout ça, et puis là de trouver le parchemin qu'on attendait, puis de, comme Jeanne d'Arc avait fait pour le procès de, comme Régine Pernoud avait fait pour le procès de Jeanne d'Arc, de se trouver devant le texte de les résumés des minutes du procès de Jeanne d'Arc. Éblouissement, mais tout un travail. Là, vous appuyez sur Wikipédia, pouf, vous avez ça tout de suite. Tout ça est très pratique, mais peut générer aussi en nous le contraire de la patience, le contraire de du temps qui s'écoule, le contraire de la persévérance, finalement. Et donc, le pape dit ceci, c'est toujours dans le livre de cette sœur. Je donne le titre parce que c'est un bon livre, hein, Année jubilaire. Sœur Marie-Emmanuelle van den Broek, Osant l'espérance. Attendez, pardon. Il faut que je le retrouve. Écoutez, je suis désolé, je ne le retrouve pas tout de suite. Bon, peu importe. Je pense que c'était dans le texte de la bulle d'indiction du Grand Jubilé qu'il y a ce passage-là, un moment. Car je suis frappé par le fait que François note que la patience et la persévérance qui font grandir l'espérance, qui permettent au don de l'espérance de fructifier, de ne pas être étouffé, aujourd'hui, parfois plus difficile dans le monde actuel. Ouais, c'est tout. J'en viens à un autre passage alors qui m'avait frappé dans cette lecture. Voilà le texte de François. Pardon. La patience et la constance sont justement la synthèse entre l'engagement humain et la confiance en Dieu. Dans ses catéchèses sur l'espérance, comme dans bien d'autres enseignements, le pape François y revient aussi, signalant que patience et persévérance sont devenues plus difficiles à acquérir dans le monde du tout de suite. Et alors c'est la sœur qui commente et qui ensuite va citer de nouveau un passage beaucoup moins connu, toujours de Charles Péguy, dans le porche du mystère de la seconde vertu. Dans la patience, ce qui nous coûte sans doute le plus, c'est la dimension passive. Le pâtir est éprouvant par définition. Dans la persévérance ou la constance, le plus difficile, c'est souvent de consentir sereinement, devinez à quoi ? À la monotonie. On aimerait que tout soit toujours nouveau et exaltant. Or, c'est dans un quotidien souvent répétitif et parfois usant que s'exerce l'espérance. Notre espérance. Peggy, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, fait un long développement imagé sur ce thème. Il explique « L'espérance ne ménage pas ses pas, la petite bougresse. Elle ne ménage pas les nôtres. Elle nous fait aller 20 fois au même endroit, qui est généralement un endroit de déception terrestre. Ça lui est bien égal. Elle est comme une enfant. Que lui importe de nous faire faire 20 fois le même trajet? Ce qui importe, ce n'est pas d'aller ici ou là, d'arriver quelque part. C'est d'aller toujours. C'est d'aller petitement dans la petite procession des jours ordinaires. C'est le trajet lui-même. Et comme on le fait, c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est comme ça que Dieu voit, mais c'est pas nous, Dieu voit. Admirable ce texte de Peggy. Hein. Alors c'est des extraits là, il faudrait dire Peggy, c'est le contraire du concentré de tomate. Quoi. C'est-à-dire, Peggy, il faut la patience aussi de lire et de lire à haute voix. Il faut lire à haute voix, Peggy, tellement c'est beau cette langue. Quoi. Pour Bernanos aussi, l'espérance c'est de faire face. L'écrivain montre que l'espérance implique un face-à-face avec le réel tel qu'il est. Elle se situe à l'opposé du déni et de la fuite. L'espérance réclame le courage de la vérité. Alors, le pape Paul VI lui-même avait dit des choses un peu semblables, dans un style très français pour le coup, enfin, qui n'est pas le style de Benoît XVI ou de François. Un style, il a été formé aux mêmes écoles que nous. Donc, Paul VI, vraiment, c'est un, quand on le lit... C'est comme si c'était l'un de nous qui parlait, mais avec la même langue que nous. Il connaissait très bien le français. C'est dans une catéchèse, c'est dans une lettre à l'évêque de Bayeux, le 2 janvier 1973. Un certain nombre parmi nous n'était encore pas sur cette planète. Paul VI proposait l'espérance et expliquait. Aujourd'hui, il importe de raviver l'espérance. Beaucoup éprouvent durement les limites de leurs forces physiques et morales. Ils se sentent impuissants devant les immenses problèmes du monde, dont ils s'estiment à juste titre solidaires. Le travail quotidien leur semble écrasant, obscur, inutile. Bien plus, parfois, la maladie les condamne à l'inaction, la persécution étant sur eux un voile étouffant. Les plus lucides ressentent davantage encore leur propre faiblesse, leur lâcheté, leur petitesse. Le sens de la vie peut ne plus apparaître clairement. Le silence de Dieu, comme on dit, peut se faire oppressant. Certains se résignent avec passivité. D'autres se referment sur leur égoïsme ou sur la jouissance immédiate. D'autres se durcissent ou se révoltent. D'autres, enfin, désespèrent. Aux uns et aux autres, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face apprend à ne pas compter sur soi-même, qu'il s'agisse de vertu ou de limite, mais à compter sur l'amour mystérieux du Christ, qui est plus grand que notre cœur, et nous associe à l'offrande de sa passion et au dynamisme de sa vie. Alors, je regarde l'heure parce que ça va, on a encore un peu de temps. Hein. Bon. Je pourrais encore dire 2 choses et puis poser quelques questions pour le partage, si vous voulez. Enfin, au moins 2 questions. Sans être trop long, je voudrais peut-être aborder une question un peu différente, prendre l'espérance du côté de la critique que nous oppose un certain monde, et en particulier les théories athées. Alors je voudrais dire un mot là-dessus, et puis aussi ensuite poser une simple question. Qu'est-ce qui fait grandir et rayonner l'espérance? Bon, ceux qui dorment, ils peuvent continuer de dormir, les autres... C'est une heure délicate, mais enfin, je vois que vous suivez. Et moi, je ne m'endors pas, ce qui est déjà quelque chose. J'ai vu une fois un curé à La Ciotat, à Marseille, s'endormir au milieu d'une phrase. Il est tombé sur le pupitre pendant une homélie. Et j'ai cru qu'il avait un malaise. Non, il s'était endormi. Voilà. En parlant, oui. Parce que c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile de s'endormir en écoutant. Ça, c'est pas difficile. Mais s'endormir en parlant, je l'ai vu une fois à Marseille. Oui. Je pense. Non, c'est une vraie histoire. Parce qu'il y a des histoires marseillaises qui sont des histoires. Là, c'est une histoire qui dit la vérité vraie. Voilà. Parce qu'à Marseille, il faut préciser. Hein. Voilà. Attention. Hein. Attention, oui. Bon. Oui, vous savez que tout ce que nous disons sur ce pli, cette belle ouverture du cœur humain vers le bonheur et la vie avec Dieu, qui est inscrit dans le cœur de tout être humain, voilà. Pour certains, ça a été l'occasion de s'appuyer là-dessus pour dire décidément, il faut combattre la foi des chrétiens, il faut supprimer la foi chrétienne. Elle est une drogue, une illusion, et surtout, elle empêche l'homme, l'être humain, de mettre en œuvre toutes ses énergies pour lutter contre les injustices. Voilà. Donc c'est la critique radicale, c'est la critique en particulier du marxisme. Alors, voilà, c'est une critique qui est importante, hein. Il ne faut pas la prendre à la légère. D'abord, il peut y avoir aussi des contrefaçons de l'espérance chrétienne. Oh, écoutez, moi, de toute façon, ça me dépasse tout ça, moi. Vous comprenez, je fais ma prière, j'attends le ciel, et puis vraiment le monde, il me tarde de le quitter. Oh là là, que c'est dur, vous comprenez. Mais ça, c'est une caricature, vous comprenez, parce que là, ça donne prise à cette critique que font les personnes qui disent il faut, pour nourrir la force humaine pour lutter contre les injustices et faire advenir une société juste et fraternelle, il faut supprimer la foi. Voilà. Ah si, effectivement, l'espérance devait avoir comme conséquence une sorte de passivité, pas dans le sens du pâtir dont j'ai parlé tout à l'heure, mais une sorte de bof, ce serait terrible. Voilà, terrible. Donc d'abord, il faut faire attention qu'il peut y avoir des caricatures de notre vie chrétienne qui ont besoin d'être secouées par la grâce. Et toujours, c'est le visage de l'autre, en particulier ceux qui est loin et souffrant, qui me ramène immédiatement dans le réel. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Ça, que je sache, je n'ai pas à me détourner du visage d'un frère, même si je suis pris par ma résolution d'aller dire une dizaine de chapelets devant je sais quel statut. Très bien ta résolution. Mais en attendant, il y a une personne qui t'attend là. Voilà. Ça, tout ça, nous le savons très bien. Bon. Mais plus sérieusement, du coup, il faut répondre à ça. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'espérance, au fond, je peux vous lire d'ailleurs, il y a un très grand ministre alors qui a dit ça, qui est en même temps un bon ministre, hein. Luc Ferry, c'est pas un mauvais bougre, hein, ancien ministre de l'Éducation nationale, déclaré en novembre 2021, on n'a pas besoin d'espérance. Je ne veux pas d'espérance. L'espoir, c'est une catastrophe. Espérer, c'est désirer quelque chose sans en jouir, sans pouvoir le faire advenir et sans savoir quand ça adviendra. Mais écoutez, beaucoup de nos contemporains pensent ça. C'est appuyé d'une certaine façon sur quelque chose qu'il faut regarder de près. Quelle est donc cette espérance dont nous disons que non seulement elle n'est pas un danger, mais elle est la source d'un amour qui va aller jusqu'au bout et qui donc peut transformer le monde. Il faut s'interroger encore pour est-ce que les gens athées sont des gens qui n'ont pas d'espoir. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils espèrent toujours, comme nous, que demain ira mieux qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas de souci avec ça. Ils espèrent, évidemment, que quelqu'un qui est en mauvaise santé, la médecine va pouvoir le guérir et que peut-être il se relèvera. Ils ont l'espoir aussi que les efforts vont contribuer à ce que les sociétés soient plus justes qu'avant, que les lois permettent à tous de grandir dans la vie sociale, etc., etc. Bien sûr, bien sûr. Et nous disons, je vais faire un détour, quel est le contraire de l'espérance, à votre avis? Bon, oui, on peut le dire comme ça. Ou disons, quel est le mot qui est très proche de l'espérance? C'est la foi. Bien sûr, ceux qui luttent contre l'espérance chrétienne, qu'il n'y a pas besoin d'espérance, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de foi chrétienne. Ouais. Il n'y a pas besoin de la foi en Dieu pour travailler dans le monde. Voilà. À la rigueur, ils disent, on verra bien plus tard. Voilà. Donc, foi et espérance marchent ensemble. C'est tellement vrai que saint Paul, dans une lettre à Thessaloniciens, des plus anciens écrits du Nouveau Testament, dit un moment, « Souvenez-vous, quand vous étiez, avant d'être touché par le Christ, souvenez-vous comment vous étiez dans le monde. Vous étiez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Voilà. » C'est-à-dire sans la foi et sans espérance. Bien sûr que Paul, comme les athées, ne veulent pas du tout dire que lorsqu'on n'a pas la foi, on ne travaille pas à ce que les choses aillent mieux. Donc on a toujours l'espoir. On n'est pas en train de se dire tout va mal. Non, justement. Alors quel est le contraire de la foi, à votre avis ? Enfin, un des contraires. Comment ? Ben, ça, c'est intellectuel. C'est une réponse de savant, ça. Mais plus spontanément, la vie courante. Quand on n'a pas confiance, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a ? Voilà. C'est qu'on a peur. Pas plus difficile. Le contraire de la confiance, de la foi, c'est la peur. Au plan psychologique et certainement au plan existentiel. Et de quoi, donc nous avons tous peur de temps en temps de certaines choses, même quand on a la foi. Moi, j'ai été mordu un jour par un chien pendant que je faisais un footing. Depuis, je me méfie toujours un peu des chiens. Il est arrivé par derrière, ce salopard. Et il m'a mordu le mollet. Pas grave, mais du coup, maintenant, j'ai toujours... Je domine cette peur, je vous rassure. Voilà. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Nous avons tous des peurs comme ça. Moi, je connais des gens, ils ont peur des araignées, figurez-vous. C'est comme ça, une araignée, je connais une personne que je connais bien à Marseille, qui hurle dès qu'il y a une araignée. Ça nous fait tous rigoler, même si elle est toute petite. Vous voyez, elle hurle comme si c'était une bombe atomique qui allait lui sauter dessus. Bon, enfin, voilà. Donc il y a des peurs. Ça, évidemment, toute personne humaine a des peurs. Donc quand nous disons qu'il y a des peurs fondamentales que le Christ traverse et du coup enlève de notre cœur, c'est quoi ? Au fond, c'est la peur de rater notre vie. Voilà. Et qu'est-ce que rater notre vie ? C'est passer à côté de l'amour. Ça, franchement, nous comprenons tous ce que cela veut dire. Et d'une certaine façon, cette peur-là est plus fondamentale que la peur biologique de la mort, j'ose dire. J'ose dire, c'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui, mais je crois. Bien sûr, personne n'a envie de mourir dans une certaine peur de la mort. Ben, c'est biologique, c'est sûr. Bon, nous sommes des êtres aussi biologiques qui sont pétris par la vie. Nous n'avons aucune espèce envie de mourir. Bon, voilà. Ça, d'accord. Mais la peur de rater la vie, c'est-à-dire de savoir que nous serions passés à côté de la grande affaire qu'est la vie humaine. Voilà. Ça, c'est plus intéressant. Eh bien, nous disons que la vraie peur de rater notre vie, la peur finalement de rater l'amour, de passer à côté de l'amour, elle est vaincue, cette peur, dans la mort de Jésus. Lui, comme homme, n'a pas raté sa vie. Voilà. Il est allé jusqu'au bout. Et du coup, notre espérance, ce n'est pas simplement un état, c'est quelqu'un. Voilà. Et du coup, l'espérance chrétienne est, EST, Jésus lui-même. Nous pouvons aller jusqu'à dire cela. Mais pas simplement Jésus comme un modèle d'enseignant, un modèle moral, un modèle de bonté, un modèle de non-violence pour ceux qui veulent voir la non-violence, un modèle, etc. etc., etc. Non. Comme l'amour même, incarné, qui du coup ne rate pas l'amour, voyez, si vous voulez, et qui du coup est aujourd'hui pour nous inscrit dans le ciel, par-delà le voile de la mort. Et du coup, cette espérance fondamentale nous donne l'énergie de vivre avec lui aujourd'hui, de vivre comme lui dans le monde, en ne passant à côté d'aucune détresse humaine et en ne nous satisfaisant pas trop vite de discours à l'endroit de la souffrance, mais en la prenant sur nous aussi. Donc, je voulais faire ce détour parce que une retraite comme celle-là, elle nous plonge dans les textes, mais nous devons entendre aussi de temps en temps, c'est pour ça que j'ai fait cette grande parenthèse, les objections aussi, qu'un monde qui n'est pas du tout plus idiot que nous, qui parfois peut être plus généreux, nous oppose aussi. Voilà. Je voulais faire cette parenthèse. Et je finis alors par qu'est-ce qui fait grandir et rayonner l'espérance, il y aurait beaucoup de réponses. À quoi vous penseriez-vous? Qu'est-ce qui permet de nourrir ce don de l'espérance? Quels sont les éléments, où notre liberté, l'amour et la constance, on l'a dit, mais je pensais d'abord à la prière. Eh oui. Comment? La louange, oui, la prière de louange, bien sûr, mais la prière, oui. Et pourquoi? Parce que celui qui n'espère pas ne prie pas. Au besoin, il se retrousse les manches, voilà, il bosse, il est généreux, tout ce que vous voudrez, mais il ne prie pas. Parce que la prière, c'est précisément de nous plonger dans ce que l'homme ne peut trouver par lui-même. Et c'est d'exposer notre vie, avec toutes ses limites, ses fragilités, à celui qui est notre espérance. Prier, c'est l'acte d'espérance par excellence, vous savez, voilà. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup, entre parenthèses toujours, ça me vient à l'esprit, l'humble prière des gens sur la tombe de leurs défunts. C'est beau, vous savez. Il ne faut pas négliger ça. Franchement, c'est beau. Parce que les défunts ne peuvent plus rien leur rendre. Donc, on est là devant un acte, non seulement de charité pure, mais aussi d'espérance. Ils ne font peut-être pas la messe, ils n'ont peut-être pas la connaissance catéchétique, mais ils espèrent intuitivement quelque chose pour leurs défunts. Sinon, ils n'iraient pas devant la tombe. Enfin, oui, donc, il y a des gestes ancestraux, simples comme ça, d'hommage aux morts, quelque chose qui dit quand même que Dieu a inscrit dans le cœur humain de l'espérance, la prière. Bon. Deuxième élément, la miséricorde. La miséricorde applique aux situations humaines la marque divine. Voilà. Dieu nous marque de sa miséricorde et nous entraîne à vivre dans cette marque-là, dans cette empreinte-là. Et nous savons tous très bien que le pardon accordé, partagé, donné, rouvre l'avenir, rouvre la vie tout simplement, la vraie vie, celle où l'amour n'est pas raté. Bon. Et la dernière chose, alors peut-être ça vous surprendra, je dirais la confiance les uns envers les autres. Voilà. Et je suis très frappé que dans le monde, y compris loin de l'Église, il y a parfois des très belles confiances les uns dans les autres. Tenez, je vous raconte cette histoire, c'est à Cadarache. Cadarache, c'est dans le sud de la France, près de Marseille, là-bas. Il y a 25 ans, il y a eu le... Comment ça s'appelle ce grand centre? ITER, merci, ITER. C'est un projet absolument fabuleux qui a été monté, si je me souviens bien, par au moins 8 ou 10 pays, très étrangers d'ailleurs à l'ère européenne, puis il y a le Japon dedans, je suis sûr. Bon. Et puis la France avait été choisie comme lieu où serait construit le centre... avec un projet qui doit être sur 40 ans, je crois, enfin, c'est un projet à très long terme. Quelle merveilleuse synergie entre tant et tant et tant de penseurs, d'ingénieurs, d'ouvriers. Voilà. Enfin, c'était époustouflant, ce projet d'ITER. Et c'est merveilleux, c'est d'essayer de reproduire l'énergie solaire sans qu'il y ait besoin de... Je ne connais rien, mais enfin, sans qu'il y ait de rejet radio, de matière radioactive, ensuite, de, comment on appelle ça, de déchets radioactifs. Mais je n'y connais rien. En tout cas, c'est une inversion, si je comprends bien, du processus ancien. Et bon, c'est colossal. Et c'est admirable. Ouais. Mais il faut une confiance prodigieuse les uns dans les autres. Voilà. Avec des vérifications scientifiques, techniques, bien sûr. Et alors, figurez-vous que je raconte cette petite histoire, puis après je poserai les questions, puis on s'arrêtera, parce que c'était à l'époque Madame Anne Lauvergeon, qui était directrice de ce grand centre. Anne Lauvergeon. Et donc, nous avions obtenu, je ne sais pas par qui, la grâce, la joie, l'honneur d'avoir une visite guidée par Madame Lauvergeon. Lauvergeon. Nous nous pointons, c'était vers le début, on devait être dans les années 2001 ou 2002. Enfin, ça avait commencé, mais pas depuis très longtemps. Alors, j'ai admiré que cette femme, qui avait beaucoup de responsabilités, avait été avec nous pendant 1h30, sans jamais ouvrir son téléphone portable, voilà. Sans jamais se laisser déranger. C'est-à-dire, quand elle était avec quelqu'un, elle était avec quelqu'un. Voilà. De Gaulle était comme ça aussi. Moi, je ne compare pas à De Gaulle. Bref. Et puis après, elle nous a dit, écoutez, je vais vous confier à des collaborateurs, et c'était des ingénieurs, qui vont vous faire promener sur le site maintenant que je... Bon, très bien, on leur a remercié beaucoup. Puis on est parti dans les bois, avec un groupe, nous étions une dizaine de Marseillais, là, quelques chefs d'entreprise, aussi des collaborateurs de l'évêque, bon, très bien. Et nous arrivons devant un immense trou, colossal trou. Il dit, c'est là que va être construit le réacteur expérimental, bon, tout ça. Et puis, il y avait des gens de toutes les nationalités, et puis, il y avait des gens des pays de l'Est. Et à un moment, j'allais dire béatement, il y a un ingénieur, je ne sais pas s'il était tchèque, slovaque, je ne sais pas, slovène, bon. Il dit, mais monseigneur, puisque vous êtes là, c'est formidable, vous allez bénir le site. Alors moi, vous savez, j'étais formé à la sainte laïcité. Bon. Alors, donc j'ai improvisé la bénédiction du site d'ITER grâce à cette parole toute simple d'un ingénieur qui évidemment n'était pas français, on lui aurait coupé la tête, qui demandait simplement qu'on puisse bénir le travail humain, ce merveilleux travail des ingénieurs. Voilà. Donc, confiance les uns envers les autres, les uns envers les autres. Et vous savez que Paul ne dit pas simplement que dans le Christ, chacun a sa fonction dans le corps, c'est vrai. Tous ne sont pas l'œil, le pied, la main, le cœur. Bon. Mais il dit aussi à un autre endroit que nous sommes membres les uns des autres, membres les uns des autres dans le Christ, ce qui s'appelle la communion des saints. Eh bien, nous appuyer les uns sur les autres, c'est faire grandir déjà, commencer à faire grandir le don de la communion des saints. Merci beaucoup de votre patience.